Au moment d'entrer dans ce second entretien de la journée, remettons-nous sous la motion de l'Esprit-Saint. Prions le Père du ciel qu'il nous le donne en abondance par son Fils. Et avec les mots du Christ, avec son Esprit qui habite en nos cœurs, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Voilà, nous poursuivons, si vous le voulez bien, notre cheminement dans l'Évangile selon saint Jean. Et nous le faisons en particulier avec ce chapitre 2, cette rencontre entre Jésus et sa mère aux noces de Cana. Nous le faisons en faisant ce chemin intérieur aussi pour nous renouveler dans la grâce de l'Esprit et de la mission. Cette mission, nous l'avons entendue à l'instant, qui est une mission complexe aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire une histoire de l'évangélisation et de la mission, ce serait évidemment trop long, et ça n'est pas l'objet direct. Mais j'entendais ce que disait à l'instant le recteur parlant du retour des personnes au sanctuaire, mais surtout des personnes individuelles, et peut-être plus de difficultés pour les groupes. Je ne sais pas comment vous vivez les choses dans vos paroisses, dans les lieux où vous êtes, mais c'est vrai que la mission et la complexité de la mission, qui vient de toute manière d'un phénomène de sécularisation puissante qui traverse depuis 100, 150 ans l'Occident, c'est encore accru, on l'a vu ces dernières années, particulièrement avec deux phénomènes qui rendent difficile la mission, mais qui n'empêchent pas bien évidemment de la vivre, et surtout peut-être qui ouvriront et qui ouvrent de nouvelles opportunités de la mission. C'est que notre mission repose d'abord sur une dimension communautaire et collective. Nous vivons une vie ecclésiale et nous sommes face à des hommes et des femmes aujourd'hui qui vivent pratiquement toutes choses de manière individuelle et de plus en plus de manière individuelle. Le phénomène du Covid, le phénomène des confinements, déconfinements, reconfinements et redéconfinements ont habitué les gens à un repli sur eux-mêmes. Vous savez qu'il y a des sociologues qui parlent aujourd'hui de la société et des personnes qui vivent ce qu'on appelle la psychologie, l'anthropologie du cocon, hein, des gens qui sont complètement repliés sur eux-mêmes. Et un de nos essayistes français, Pascal Bruckner, a publié il y a quelques semaines un livre assez ravigotant qui s'appelle « Le sacre des pantoufles ». Enfin, pas le sacre du pantoufle, pour dire que le pantouflage et la flemme sont devenus une des pratiques habituelles en Occident et particulièrement dans notre pays. Donc il y a ce phénomène d'un individualisme où on se recroqueville sur soi, sur son confort, une vie de cocon, de protection, et puis une vie où on a beaucoup de mal à faire un effort. Et quand on pense que l'Évangile commence par la conversion, c'est vrai qu'il y a un petit peu de travail à faire quand même. Voilà. Et puis un autre phénomène que l'on voit aussi, il n'y a pas que le phénomène de l'individualisme, mais c'est ce phénomène de la contraction du temps. Vous savez bien, beaucoup d'analystes le disent, nous sommes en 2023 avec des moyens technologiques qu'aucune civilisation n'a jamais eu, et jamais nous n'avons aussi peu su ce que seront les mois et les années à venir. On a les outils les plus puissants et on a la vue la plus courte, paradoxalement. Et ça veut dire que le temps s'est contracté, nous vivons une sorte d'éternel présent, mais pas l'éternel présent de Dieu, un présent médiatique, un présent de l'information, un présent TikTok, un présent Snapchat, un présent ce que vous voulez. Mais ce qui veut dire aussi que nous avons et nous sommes dans une civilisation de la perte de la mémoire et de la perte de l'espérance pour l'avenir. Et alors que nous sommes, nous, des hommes envoyé par le Seigneur pour annoncer justement qu'il est rentré dans l'histoire. Alors on voit la complexité par rapport à l'individualisme, par rapport à la question de l'histoire et du rapport au temps, les annonces, les promesses. Et on voit ce problème par rapport à la sécularisation puissante, c'est-à-dire penser le monde sans Dieu. Vous avez aujourd'hui des psychologues qui vous disent déjà des jeunes sont structurés inconsciemment, sans être structurés par ce qu'on appelait classiquement le triangle oedipien, c'est-à-dire le rapport au père et à la mère. Et nous allons progressivement, je me souviens d'en avoir discuté souvent avec un de mes prédécesseurs à Tours, avec qui j'ai beaucoup voyagé parce que, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon intérêt pour le judaïsme, en particulier à travers Saint-Jean, vient aussi du fait que j'ai été président du Conseil pour l'unité des chrétiens et des relations avec le judaïsme pendant 6 ans, dans la conférence des évêques de France. J'ai pas mal voyagé avec André 23, qui était déjà archevêque de Paris à l'époque. Nous sommes allés aux États-Unis ensemble, en Pologne, évidemment en Israël. Et lui me disait souvent, tu vois, on a eu la sécularisation de l'État, la loi de 1905. On a actuellement la sécularisation de la société. Il y a les fêtes de printemps qui ont remplacé les fêtes de Pâques. Les fêtes de fin d'année ont remplacé les fêtes de Noël. Et il disait, nous sommes en phase maintenant de la sécularisation de l'âme humaine. C'est-à-dire la sécularisation de l'intériorité. D'abord parce qu'il n'y a presque plus d'intériorité. Parce que pour ça, il faudrait un peu de silence, il faudrait apprendre l'intériorité, et beaucoup ne savent plus. Mais aussi parce que l'intériorité, cela suppose, comme dit, de pouvoir penser même la question de Dieu. Et vous aurez des enfants, dans 5-10 ans, le mot Dieu ne vaudra absolument plus rien dire pour eux. Enfin, vous le savez bien, vous les rencontrez comme moi je les rencontre. Donc ça dit la complexité, et en même temps, certainement les défis devant lesquels nous sommes. Parce que, comme Benoît XVI l'avait lui-même prophétisé, partant du subjectivisme, du relativisme, pour arriver au nihilisme, à un moment donné, quand même, le vide, on voit le vide à travers les planches, comme chante un chanteur français connu. Voilà. Et il y a une forme de questionnement qui peut revenir. C'est Alain Souchon, hein, pour ceux qui chercheraient. J'ai vu des visages devenir interrogatifs. Voilà. Il a fait une chanson, je ne sais pas si vous savez, uniquement en citant des marques de mode. Et le refrain, c'est tout simplement « ça penche, on voit le vide à travers les planches » pour dire le vide de la culture actuelle. C'est assez intéressant comme modalité. Voilà. Vous ne pensiez pas, comme vous citerez Alain Souchon dans une retraite sur Saint-Jean, bah c'est fait. Voilà. Alors, si vous voulez bien, nous poursuivons plus sérieusement. Mais je pense que ce que je vous ai partagé là ne manque pas de sérieux. J'ai travaillé d'ailleurs ici, puisqu'on parlait du sanctuaire. J'ai été 6 ans de suite comme séminariste, la première année, en dernière année, à Pèlerin d'un jour, où l'on recevait déjà, il y a 30 ans, 35 ans, des pèlerins qui venaient seuls. On les appelait rendez-vous à la Vierge couronnée, il y en a peut-être parmi vous qui ont fait ça aussi. Et on réunissait une petite troupe de gens qui venaient d'un peu partout, qui ne se connaissaient pas, et on faisait une journée de pèlerinage avec eux, c'était assez passionnant. Alors pour notre rencontre de cet après-midi, les noces de Cana, au chapitre 2 de Saint Jean, je vais rapidement lire le texte et puis vous le commenter aussitôt. Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée et la mère de Jésus était là. Jésus, lui aussi, fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Mais Jésus lui répondit « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux servants « Quoi qu'ils vous disent, faites-le. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit aux servants, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les emplirent jusqu'au bord. Jésus leur dit, « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des servants qui avaient puisé l'eau. Aussitôt, il s'adresse au marié et lui dit « Tout le monde offre d'abord le bon vin et lorsque les convives sont gris, on fait servir le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut à Cana de Galilée, le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais ils n'y restèrent que peu de jours. Je vous propose de traverser ce texte en 3 temps. D'abord, ces noces à Cana de Galilée le troisième jour, auquel Jésus va se rendre et où il rencontre sa mère qui y est invitée. Puis, la mise en relief de la médiation de Marie. Et puis enfin, le signe de Jésus, le premier des signes, changer l'eau en vin, qui est le signe des épousailles. Ce matin, nous avons laissé Jésus auprès de Simon-Pierre, de son frère André. C'était le troisième jour de la semaine inaugurale de Saint Jean, qui correspond, qui est le pendant de la semaine inaugurale de la Torah, de la Genèse, la première création dans la Genèse à laquelle répond la nouvelle création en Saint Jean. Et si vous avez lu le passage du chapitre 1er jusqu'au chapitre 2 et les noces de Cana, vous avez vu que la semaine va se poursuivre, car au verset 43, on nous dit que le lendemain, Jésus, résolu de gagner la Galilée, il va rencontrer Philippe, et puis il va rencontrer Nathanaël qu'il trouve sous un figuier. Vous savez pourquoi il le trouve sous un figuier? Bien évidemment, c'est la tradition juive. Quand il n'y a pas de synagogue dans un village, on enseigne la Torah sous un figuier, parce qu'il est le symbole de la parole qui a le goût du miel, et cela rappelle le lien à l'écriture. C'est très important ce qui se passe là, parce que Jésus va arriver alors au début du chapitre 2, le troisième jour. Le troisième jour après ces quatre jours précédents, on achève donc la semaine aux noces de Cana, où Jésus va faire son premier signe. Et c'est très important, pourquoi un petit détail aussi dans la tradition juive, c'est que Jésus a désormais cinq disciples. André et l'autre disciple, Simon-Pierre, Philippe et Nathanaël. Or, dans la tradition juive, on peut prendre le titre de rabbi une fois qu'on a cinq disciples. Cela signifie donc que Jésus arrive à Cana comme rabbi. Il a désormais l'autorité spirituelle et morale d'un rabbi. Et il vient aux noces de Cana, sachant que les noces en Israël, à l'époque du Christ, c'était un événement extrêmement festif, puisque les noces duraient en général 7 jours. Vous trouvez ça dans le livre des Juges, au chapitre 14, verset 12, dans le livre de Tobie, chapitre 11, verset 20. Les noces de Tobie furent célébrées dans la joie 7 jours durant, et beaucoup de cadeaux lui furent offerts. Pendant 7 jours, on a le temps de recevoir des cadeaux, c'est ça ce qui est sympathique. Donc ce mariage est important, un mariage qui dure une semaine. Vous savez que peut-être que les rabbis posent la question, qu'est-ce que Dieu fait depuis qu'il a fini de créer le monde? Ça y est, c'est fait. Que fait-il depuis qu'il a créé le monde? Eh bien, Dieu fait des mariages. C'est la réponse rabbinique, parce que c'est l'espérance de la venue du Messie, évidemment, qui est derrière cette espérance des mariages. Et donc, on a un événement important, un grand moment de joie, et en même temps d'une grande banalité. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer en ce dernier jour de la semaine inaugurale de la recréation en Saint-Jean, ce premier signe de Jésus, a lieu dans une petite bourgade dont on a à peine gardé le nom, qu'on a eu de la peine à retrouver, et quand on y arrive, il ne reste quand même pas grand-chose de l'époque. En tout cas, le fait est que cela signifie pour nous quelque chose d'important, c'est que les grandes choses de Dieu passent à travers les petites. Les grandes choses de Dieu passent à travers les petites. Il n'y a pas de détails pour Dieu. Il agit à travers toutes choses, même les choses les plus banales, apparemment les plus pauvres. Et vous le savez bien, puisque chaque jour, vous célébrez la Sainte Eucharistie, vous avez la chose la plus banale du monde entre les mains, et que Dieu se donne à travers cette chose banale, qui est une rondelle de pain. Si un anthropologue non chrétien arrive et qu'il nous voit en train d'élever une rondelle de pain dans un objet métallique relativement précieux, il aura du mal à comprendre que ce qui est dans la patène précieuse est encore plus précieux que la patène elle-même. Mais nous savons que c'est ce qu'il y a de plus précieux qui va nous être donné. À travers la banalité, le plus grand nous est donné. Et puis on nous annonce que la mère de Jésus était là. Elle est annoncée avant Jésus, venue sûrement avant lui. Pourquoi? Parce que lorsqu'un mariage avait lieu en Israël, les femmes, dans un même réseau, dans un même village ou dans une communauté de villages, se réunissaient pour préparer, bien évidemment. Vous imaginez 7 jours de victuailles, 7 jours de repas, il fallait quand même du travail. C'est l'entrée en scène de Marie, la mère de Dieu, annoncée avant Jésus, je l'ai dit à l'instant, mais relative à lui, puisqu'elle est annoncée comme la mère de Jésus. On ne dit pas que c'est Marie, c'est la mère de Jésus. Elle est présentée relative à Jésus et avec son titre, sa mission, la maternité de Christ. Et puis, enfin, au verset 2, on nous dit « Jésus, lui aussi, fut invité à la noce. » Invité à part de sa mère, ils sont arrivés tous les deux distincts. C'est important de le souligner. Et il est invité avec ses disciples. Il est désormais rabbi, les disciples sont les siens. Sachant que le mariage lui-même avait lieu en général le septième jour de la semaine du mariage, c'était en général le mardi, en partant du jour du Shabbat. Pourquoi ? Parce que le troisième jour est le jour traditionnel dans l'Ancien Testament. On ne parle évidemment pas de résurrection ici, on n'est pas dans la Nouvelle Alliance. Dans la première alliance, le troisième jour est toujours le jour de l'intervention de Dieu. Abraham, en faveur d'Abraham, en faveur de Moïse, Jonas, d'Osée. Dieu intervient toujours le troisième jour. Et donc, les commentateurs bibliques avaient observé ce rôle du troisième jour, qui est aussi très particulier si on avait le temps dans la Genèse. Dans la Genèse, il se passe un incident dans la création le troisième jour. C'est un tout petit détail, mais qui montre la rébellion qui commence dans la création, l'origine du mal dans la tradition juive. Parce que c'est la création des végétaux, et il y a quelque chose qui se passe dans le texte qui montre que Dieu commande quelque chose qui ne s'opère pas exactement comme il l'a demandé. Il faut que nous allions à travers le texte. En tout cas, donc, c'est le troisième jour qu'a lieu le mariage lui-même. Et cela nous amène alors à mon deuxième temps, c'est la mise en relief de la médiation de Marie. Pourquoi ? Parce que dès le verset 3, on nous l'annonce, « Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. » C'est Marie qui vient informer Jésus, elle vient révéler à Jésus quelque chose d'essentiel, c'est le manque. Quelque chose va manquer. Ça nous dit d'abord la qualité d'attention de Marie, son regard. Marie n'est pas quelqu'un qui louche, elle regarde pleinement et elle observe que le vin va manquer, ce qui bien évidemment symboliquement est tout à fait dramatique. Pourquoi ? Parce qu'au plan biblique, en Israël, il y avait, je l'ai dit, sept jours de noces qui demandaient beaucoup de vin. Les noces étant le signe de l'union entre Dieu et son peuple, et le vin étant fondamentalement le symbole de la fête de cette union, de la joie de cette union. Pensez bien évidemment au Cantique des Cantiques, au chapitre 1, verset 4. « Nous célébrons ton amour plus que le vin ». Ou bien dans le psaume 104, il fait produire à la terre le pain et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Cela est d'autant plus vrai, et vous verrez important tout à l'heure, qu'en vue de la venue du Messie et de l'Alliance, on annonce que, et c'est le livre d'Amos par exemple, qu'au moment de la venue du Messie, il y aura abondance de vin pour rétablir l'Alliance par le Messie. Le livre d'Osée nous dit même que la qualité de ce vin au moment de la venue du Messie sera supérieure au vin du Liban qui était considéré comme le top, si l'on peut dire, dans le domaine. Et vous le savez, nous l'entendons souvent par la bouche du prophète Isaïe, ce vin sera gratuit comme le lait au festin eschatologique. Dire qu'il n'y a plus de vin, c'est affecter toute cette espérance d'Israël, au-delà de l'événement dans ce petit village de Cana. En tout cas, l'intervention de Marie montre son souci. Elle a vu le manque. Elle a vu le manque, et en même temps, il y a quelque chose chez elle de très beau, c'est qu'elle n'a pas la tentation face à ce manque d'être celle qui va être la solution ou que va résoudre le problème. Elle a vu le manque, elle l'authentifie. Mais vous voyez bien comment elle ne va pas être le tout. Elle va laisser être le tout celui qui est le tout, c'est-à-dire son fils Jésus. Marie, tout comme Jean-Baptiste ce matin, s'efface. Elle parle et elle s'efface. Comme Jean-Baptiste avait parlé, voici l'agneau de Dieu, et il s'efface. L'un comme l'autre, et ce n'est pas par hasard s'ils sont sur les portes royales dans la liturgie orientale, avec l'iconostase dans la tradition orientale, vous avez deux figures fondamentales. Vous avez la Théotokos, la mère de Dieu, et vous avez Saint Jean-Baptiste. Ils sont les seuls dont on célèbre d'ailleurs la naissance et dont on célèbre la mort. Passage en Dieu. Et l'un comme l'autre s'efface devant la venue du Christ. Il laisse le mystère de Dieu s'opérer. Il laisse Dieu agir. Même si Jean-Baptiste devra le comprendre, vous savez combien il va rechigner au moment où Jésus lui demande de le baptiser, « Laisse faire, car c'est ainsi que nous devons accomplir toute justice. » Donc il a dû apprendre à consentir. Comme Marie devra apprendre à consentir au recouvrement au temple. Elle doit apprendre à laisser passer d'abord la volonté du Père. Elle aussi. Elle est sans péché, mais comme l'Immaculée Conception, mais elle n'est pas sans combat spirituel aussi. Marie intervient donc, elle fait le constat du manque. Il est en effet difficile d'imaginer que Marie demande à Jésus de faire un signe, puisqu'il n'en a encore jamais fait. Et c'est plutôt sa délicatesse qui lui fait signifier à Jésus ce qui se passe et peut-être lui suggérer d'agir. La réponse de Jésus, vous le savez, est une réponse qui nous a fait des kilomètres de commentaires. Que me veux-tu, femme ? La traduction quasiment littérale du grec donne, vous le savez certainement, « quoi à toi et à moi ?» une expression qu'on trouve ailleurs d'ailleurs dans l'Évangile, en particulier en Saint Marc, au moins une occurrence. Cette formule signifie, on peut tourner autour longtemps, une certaine forme de mise à distance. Alors on a des interprétations de cette mise à distance très variées. Si on regarde saint Augustin, par exemple, que nous dit-il ? Saint Augustin nous dit « C'est comme si Jésus disait à sa mère « Le pouvoir de faire le miracle, je ne le tiens pas de toi qui n'a pas engendré ma divinité. » Et saint Augustin, il nous fait tout de suite de la théologie dogmatique. Il est, voilà. Puis vous avez des commentaires, j'ai lu des commentaires de religieux aussi férus de psychologie, disant finalement Jésus devient adulte, il entre dans le monde des adultes, sa première apparition publique aux noces de Cana, finalement il coupe le cordon avec sa mère, il la met à sa place, voilà, c'est à moi de faire maintenant. Il acquiert sa liberté d'adulte dans le monde dans lequel il est. Vous choisirez l'interprétation que vous voudrez. Puis je vous propose qu'on se retrouve au ciel, on se mettra dans un coin, on demandera à la Vierge comment ça s'est passé, elle nous expliquera. En tout cas, le fait est qu'il y a une modalité de divergence de point de vue. Mais la divergence n'est pas tant entre Jésus et Marie qu'entre Jésus et Marie et le reste de l'assemblée. C'est-à-dire que Jésus, au plus profond, semble dire à sa mère « En quoi sommes-nous concernés par cela, toi et moi ?» En quoi sommes-nous concernés ? Et Jésus, répondant à sa mère, l'appel d'ailleurs du terme de femme dans le monde oriental, qui est assez classique, ça n'est pas du tout quelque chose de déplaisant, mais surtout il signifie que son heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire que Jésus, aux noces de Cana, avant de faire son signe, signifie bien qu'il est venu pour une mission particulière. Il est venu pour un moment particulier et qui va traverser tout l'Évangile selon saint Jean. Et on peut opter pour cette hypothèse de compréhension. Jésus et Marie se disant en quoi sommes-nous concernés, toi et moi, par ce qui se passe. Et Jésus qui rappelle que son heure n'est pas encore venue, par le fait que Marie a l'audace alors de s'adresser au servant en pleine confiance pour dire « Quoi qu'il vous dise, faites-le ». C'est elle qui reprend l'initiative. C'est elle qui va conduire ce qui va se faire. Elle laisse tout ouvert, mais elle fait avancer. Quoi qu'il vous dise, faites-le. Génial que ça fait d'ailleurs, cette formule mariale fait une excellente devise épiscopale pour ceux qui seraient en recherche. Je peux en témoigner personnellement. Donc qu'est-ce que dit Marie ? Quoi qu'il vous dise, faites-le. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit aux servants, remplissez d'eau ces jarres, et ils les emplirent jusqu'au bord. Marie commence ce qui va donner le signe, et Jésus l'accomplit. D'articuler ces 2 choses. D'abord, la réponse de Marie, en tout cas l'interpellation de Marie, faites tout ce qu'il vous dira, c'est la même formule pratiquement qu'à l'Annonciation en Saint-Luc au chapitre 1. Au chapitre 1 de Saint-Luc, l'Annonciation, Marie répond et le grec est au passif. Ici, on est à l'actif. Elle l'invite à une action. Elle l'invite à rentrer dans la volonté de Dieu. Quoi qu'il vous dise, faites-le. Il ne s'agit pas donc seulement d'avoir la foi, de rencontrer Jésus, de devenir son disciple, comme nous l'avons appris ce matin. Pour devenir disciple de Jésus, il faut aussi entrer dans sa volonté, qui est la volonté du Père. Il ne s'agit pas seulement de se laisser déplacer, il ne s'agit pas seulement d'avoir un nouveau regard, il ne s'agit pas simplement de demeurer avec lui. Vous avez observé que ce midi, le pape émérite Benoît XVI nous parlait aussi de cette demeurance dans la prière. Mais il s'agit aussi d'entrer dans la volonté de Dieu, dans la sequela Christi. Et ça, ça va demander de transformer notre eau en vin. Et non pas en vin, V-A-I-N. Hein, attention. On peut faire un jeu de mots sur le vin. C'est-à-dire de passer notre volonté propre à la volonté de Dieu. C'est Albino Luciani, le pape Jean-Paul Ier, qui disait dans une des lettres qu'il avait écrites, vous savez qu'il avait écrit un recueil de lettres qu'il avait écrit à pas mal de personnalités de l'histoire. Il avait écrit une lettre à Dante, il avait écrit une lettre à François d'Assise. Et dans une de ses lettres, il dit « Bien des fois, j'ai assisté à la mort de ma volonté propre. Bien des fois, j'ai assisté à sa résurrection. » C'est le combat de la vie. François de Sales disait, vous le savez sûrement, « Notre amour propre mourra un quart d'heure après nous. » Notre amour propre mourra un quart d'heure après nous. C'est dire ce combat jusqu'au bout. Cette lutte avec nous-mêmes, avec une part de nous-mêmes, obscure, qu'il faut vivre d'ailleurs avec souplesse et avec tendresse pour soi-même, disait François de Sales aussi. C'est pas le volontarisme qui peut nous aider. C'est la volonté éclairée par l'intelligence qui peut nous mouvoir vers ce bien. Donc il s'agit d'entrer dans la purification de notre volonté, nous laisser transformer. Et c'est ce que Marie apprend aux noces de Cana. Et qu'elle nous apprend. Alors les serviteurs peuvent remplir de 2 à 3 mesures les 6 jarres de pierre destinées aux purifications. Entre parenthèses, le détail historiquement est tout à fait exact. Je vous dis ça parce que beaucoup d'icônes orientales, j'en ai moi-même 2 qu'on m'a offertes en raison de mon attachement aux noces de Cana et de ma devise épiscopale. Et sur les icônes, on voit souvent des jarres en poterie, des jarres ça c'est l'interprétation iconographique. Jamais les Juifs n'auraient utilisé des jarres en poterie pour faire leurs ablutions. Les ablutions étaient toujours faites dans des jarres en pierre. Toujours. Parce que dans la tradition juive, la pierre est un élément isolant, qui isole. La pierre, c'est la pierre d'abord de la loi. C'est elle qui isole du monde profane. Et donc, on utilise de la pierre, comme on utilisait d'ailleurs en Israël, on utilisait des calices en pierre. Ça peut paraître étrange. Hein. Je me souviens, au musée de Tel Aviv, nous étions allés visiter des calices en pierre. C'est assez surprenant, hein, ça pèse son poids. Parce que c'est un isolant. Donc, il coupe du monde profane et du monde du péché pour garder la sainteté. Ça va vous donner des idées, je sens. Et donc, que va-t-il se passer? Troisième temps, alors, le signe de Jésus. Le signe des épousailles. Jésus leur dit, maintenant puisez et portez-en au maître de repas. Ils lui emportèrent, il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait, à la différence des servants qui avaient puisé l'eau. Aussi, il s'adresse au marié et lui dit, tout le monde offre d'abord le bon vin. Et lorsque les convives sont gris, on fait servir le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Jésus va faire ce signe qui nous fait passer de l'eau, signe de purification, signe de pénitence, en vin, qui est le signe de la joie des épousailles et de l'amitié avec le Christ. Et nous a précisé une chose, c'est qu'il y avait là six jarres de pierre, avec deux ou trois mesures, ce qui fait une énorme quantité de vin. Une quantité considérable. 700, 800 litres de vin. Or, le détail n'est pas anodin. Pourquoi? Parce que dans la tradition d'Israël, que les Juifs connaissent à l'époque du Christ. La lecture de la bénédiction d'Isaac évoque le fait que, dès le début de la création, dès que Dieu a créé le monde, après avoir créé le monde en six jours, et avant de se reposer, il a fait une dernière chose. Il a mis du vin en réserve sous son trône. Et que ce vin est gardé pour la venue du Messie dans le monde, et qu'un signe de reconnaissance du Messie sera le don de ce vin mis en réserve. Quand l'époux entre dans l'humanité, dans la chambre nuptiale, les épousailles demandent le meilleur des vins. Et donc, le signe que fait Jésus est un signe qui parle pour ses contemporains. Cette surabondance de vin, d'un vin qui est le meilleur, évoque bien évidemment ce vin réservé pour la venue du Messie. Parce que vous le savez bien, vous prêchez sur ces textes bien évidemment tous les ans, vous le savez bien, une des interrogations de ce grand texte, des noces de Cana, c'est que bien évidemment on nous parle d'épousailles et que jamais nous ne voyons ni l'époux ni l'épouse. Et vous savez bien pourquoi, puisque l'époux des noces de Cana, c'est Jésus lui-même. Et l'épouse des noces de Cana, c'est l'humanité tout entière, qui est appelée à voir se transformer l'eau en vin, c'est-à-dire qui est appelé à vivre l'union avec le Christ, les épousailles avec le Christ. Ce que la théologie orientale appellera la divinisation, la participation à la nature divine, ce que notre théologie catholique, ce que la doctrine catholique appellera la sanctification, ce que notre foi catholique appellera la sanctification. En fait, Jésus ici est en train de résoudre une des grandes énigmes qui traverse toute la théologie de la première alliance. Dieu s'est révélé dans la première alliance comme un Dieu qui se veut proche de son peuple, même s'il est le tout autre. Et d'un Dieu qui, dès le Lévitique, dit à son peuple qu'il souhaite l'union avec lui. Soyez saints parce que moi, Yahvé, je suis saint. Mais en même temps, si le Dieu d'Israël souhaite l'union avec son peuple et invite à vivre la vie de sainteté, lui qui est le Dieu trois fois saint, il y a une difficulté dans la théologie d'Israël. C'est que Dieu est le tout autre et que l'homme est pécheur. Et qu'il y a comme un abîme entre la condition humaine et le Dieu qui s'est révélé au Sinaï. Or, Jésus est celui qui vient franchir le pont. Il est le pontifexe, celui qui franchit le pont sur l'abîme. Par sa nature humaine et par sa nature divine, il unit en lui humanité et divinité, et il permet désormais à tous ceux qui seront en union avec lui de participer à la vie divine. C'est l'admirable échange des préfaces de la nuit de Noël. Il devient tellement l'un de nous que nous-mêmes, eh bien, nous devenons divins. Nous participons à la vie. C'est ce que la toute première théologie de saint Paul, dès la première épître aux Thessaloniciens, assumera. Dans la première épître aux Thessaloniciens de saint Paul, qui est le premier des écrits chrétiens, il datait de 48, 49, 50 maximum, on est 10, 15 ans après la mort et la résurrection du Christ. On a la première théologie, l'embryon. C'est von Balthasar qui disait: on aurait perdu les évangiles, on aurait la première théologie de saint Paul, on saurait déjà ce que ça veut dire d'être chrétien et comment le faire. Il va peut-être un peu loin en disant ça, mais il dit quelque chose quand même. Tout est déjà en place. Et qu'est-ce que dit Paul dans la première aux Thessaloniciens, à plusieurs endroits, mais en particulier au chapitre 4, verset 3, la volonté de Dieu sur vous, c'est que vous soyez saints. Si Jésus transforme l'eau en vin en os de Cana, c'est pour signifier qu'il est l'époux qui rentre dans le monde et qu'il veut désormais épouser l'humanité, que cela devient possible par lui, avec lui, en lui. Chacun a accès à la vie divine en lui. Par le don de l'Esprit. Par le don de l'Esprit. Et vous savez bien que notre Église a intégré ce mystère dès les débuts du christianisme. La question de la sainteté, en particulier de la sainteté des martyrs, et de la sainteté des martyrs d'ailleurs, pour lequel il n'y a jamais eu de différence entre la masculinité et la féminité. Dès le début de l'Église, on a mis en lumière la sainteté et des hommes et des femmes. Pensez au canon romain que nous avons utilisé ce matin, à la messe que nous avons prié ce matin, qui à la fois fait mémoire des grands saints, des grands martyrs, hommes et femmes. Donc l'accès à la sainteté, désormais, est universel. Pour chacun, pour chacune. Et à travers les siècles, notre Église va canoniser des hommes, des femmes de toutes conditions, de toute culture, et rappellera en particulier, je le signale au passage, dans un grand texte du Concile, ce mystère. La constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, qui répond à la question que posait le saint pape Jean XXIII au début du Concile. Église, que dis-tu de toi-même? Quel est ton être? Quelle est ta mission? Et vous le savez peut-être, les quatre premiers chapitres, ce texte est construit sur le modèle de l'exitus reditus comme la somme théologique de saint Thomas. Et pendant les quatre premiers chapitres, la constitution dogmatique répond à ce qu'est l'Église, son être, peuple de Dieu, Ecclesia de Trinitate, l'Église de la Trinité, peuple de Dieu, structuré hiérarchiquement, composé des fidèles. Et la deuxième partie, les quatre autres chapitres, répondent à la question, quelle est ta mission? Et cela commence au chapitre 5 de l'Omen Gentium, qui a comme titre, vous le savez certainement, en tout cas, vous devez le savoir pour le prêcher, l'annoncer et aider à en vivre, la vocation universelle des baptisés à la sainteté. Les chrétiens sont appelés à être des saints. Et l'Omen Gentium le rappelle, nous le devenons par le baptême et la grâce sanctifiante, et nous avons à le déployer dans la vie de sainteté qui doit être la nôtre. Jean-Paul II le rappelait, j'aime bien dire ça. Vous savez qu'après le grand jubilé de l'an 2000, saint Jean-Paul II avait sorti un texte sur le bilan du jubilé de l'an 2000 qui s'appelait « Novo Millennio Ineunte », à l'orée du nouveau millénaire, au début du nouveau millénaire. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce texte ? C'est très intéressant. Il dit que toute la pastorale, toute la mission de l'Église au début du troisième millénaire doit avoir comme unique perspective la sainteté. Et il rappelle alors le chapitre 5 de l'Omen Gentium. Et il va jusqu'à dire, demander à un catéchumène, veux-tu être baptisé, équivaut à lui demander, veux-tu devenir un saint? Ce sont les épousailles avec le Christ. Ce sont les noces de Cana qui s'accomplissent. C'est le vin des noces. Que nous sommes appelés à vivre, nous, dans notre ministère. Je vous cite juste Presbyterum Ordinis numéro 3. C'est l'exercice loyal, inlassable de leur fonction dans l'Église du Christ qui est pour les prêtres le moyen authentique d'arriver à la sainteté. Ce qui doit permettre aux prêtres de construire l'unité, c'est de suivre dans l'exercice du ministère l'exemple du Christ Seigneur dont la volonté est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Tous les baptisés sont appelés à la sainteté et nous sommes appelés particulièrement à la sainteté, nous, comme prêtres, comme évêques, en la vivant dans les actes du ministère. Par notre annonce de l'Évangile, par notre célébration des sacrements, la sanctification et particulièrement de la messe, et par le service du peuple de Dieu qui est le nôtre. J'y reviendrai dans 2 jours, plus précisément. Et donc cela signifie que le cœur de ce que nous avons à vivre, de cette union, de ces épousailles, c'est d'abord d'accueillir le fait que le Christ nous invite à cela. De garder la finalité, de garder les priorités dans notre vie de ministère. Le but, c'est la sainteté. L'horizon de notre vie ministérielle, c'est la sainteté. Et tout doit être orienté par rapport à ce but. Et ce but qu'est la sainteté passe fondamentalement, je l'ai lu à l'instant dans Presbyterum Ordinis, mais vous pourriez le trouver dans Pastores d'Abou Vobis, dans tous les grands textes, et Benoît XVI l'a dit d'une certaine manière ce matin aussi, enfin à midi, ça passe en particulier par quoi? On l'a dit tout à l'heure lorsque Marie nous donnait le conseil par les serviteurs, tout ce qu'il vous dira, faites-le, c'est d'entrer dans la volonté du Christ. Faire la volonté de Dieu comme Jésus lui-même l'a fait. Et c'est cette entrée dans la volonté du Christ, pourquoi ? Parce que vous le savez bien, vous avez fait de la théologie, c'est dans la volonté que se situe l'acte de charité. L'acte propre de la volonté, c'est d'aimer. On aime quand on veut aimer. Le père Jérôme de l'abbaye de Ceffonds, je le cite dans L'art d'être disciple, je me souviens encore de la sorte d'éblouissement éprouvé lorsque j'ai appris tout à coup au hasard d'une classe de philosophie, je crois qu'il y a un prof de philo parmi nous, au hasard d'une classe de philosophie, que l'acte propre de la volonté, c'est l'amour. Il est vrai que l'amour peut être éprouvé comme un attrait, mais ce n'est là qu'un préliminaire à l'amour. C'est ce que disait Saint Vincent de Paul, vous savez, quand il disait, très souvent dans ses conférences qu'on a et qu'on peut lire et relire, conférences, quand il dit qu'il s'agit de passer de l'amour affectif à l'amour effectif. L'amour affectif à l'amour effectif. Si nous attendons de sentir de l'amour pour aimer, nous pouvons perdre un certain temps. Dieu ne nous demande pas d'éprouver de l'amour, il nous demande d'aimer, ce n'est pas la même chose. On y reviendra. Et donc cela veut dire que, et j'en termine, le cœur de notre mission, comme Jésus lui-même l'a fait, et comme vous le verrez dans Saint Jean de manière continuelle, c'est de consentir à la volonté d'un autre, d'entrer finalement dans l'obéissance de la foi, à obéir et se mettre à l'écoute de celui qui peut nous faire grandir, de celui qui peut nous faire grandir, en particulier dans l'union et la communion. C'est-à-dire de renoncer à notre volonté propre, de mourir à nous-mêmes et à notre volonté propre. Et j'aimerais vous lire ce que disait un Strasbourgeois. Salut mes frères Strasbourgeois qui sont parmi nous, au moins un que j'ai eu au séminaire, parce que j'ai été supérieur de séminaire, je ne l'ai pas dit ce matin, 8 ans à Strasbourg. Jean Tolère qui était prieur du couvent des Dominicains de Strasbourg à la grande époque. Il doit y avoir une cause bien puissante à l'échec de l'union, dit Jean Tolère. Dans une prédication à des laïcs au peuple de Dieu, hein, ce n'est pas une prédication faite à des experts en théologie médiévale. Hein. Il doit y avoir une cause bien puissante à l'échec de l'union et c'est bien étonnant, mon enfant. Je vais te le dire. Leur cœur, en parlant de ceux qui n'arrivent pas à s'unir à Dieu, leur cœur, leur fond, leur amour, leur affection sont occupés par un amour étranger. Quel qu'il soit, pour les morts ou pour les vivants, pour eux-mêmes ou pour leur intérêt. Cet amour étranger a si bien encombré et occupé la place que le véritable amour de Dieu, qui est le pain de vie, n'y peut entrer d'aucune façon. Écoutez bien. Si nombreuses que soient leurs demandes et leurs peines. On peut en faire tout ce qu'on voudra en matière ascétique, ça ne sert à rien. Parce que le cœur est encombré de nous-mêmes. Et Tolère poursuit, ce sont tous des gens qui sont si pleins de leur volonté, si pleins, si pleins, si pleins, 3 fois. Point, il y a bien peu d'âmes qui se soumettent à Dieu. Il y a bien peu d'âmes qui se soumettent à Dieu. Je termine donc en nous disant, en nous rappelant, le cœur de notre vie, de baptiser déjà, mais nous en plus de consacrer à Dieu par notre ministère, par notre ordination reçue, et de nous mettre à la suite de Jésus comme disciples. Consentir à nous laisser déplacer, consentir à entrer dans le regard théologal du Christ. Comme disait le curé d'Ars, avec mes yeux de chair, je vois le fond de mon Église, avec les yeux du cœur, Éphésiens 2, je vois jusqu'au ciel. Regard théologal, fréquenter l'oculiste, pneumatique. Et puis apprendre à demeurer avec le Christ. Mais apprendre aussi, comme nous l'a dit Marie cet après-midi, la Mère de Dieu, apprendre aussi à faire tout ce qu'il nous dira. Et ça, c'est apprendre à discerner la volonté de Dieu. Françoise de Sales nous dit qu'elle nous vient de 2 manières, cette volonté de Dieu. Je termine avec ça. La volonté signifiée et la volonté de bon plaisir. La volonté signifiée et la volonté de bon plaisir. D'abord, François de Sales nous dit « Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous n'avons pas besoin de discerner, où le bon sens nous suffit. » n'y a pas besoin de discerner pour savoir ce que vous allez prendre au petit déjeuner le matin. Pas aller faire les 30 jours. Voilà. Le bon sens suffit pour les opérations ordinaires de la vie. Mais quand il y a des choses difficiles, quand il faut discerner, diakrisis en grec, passer à travers questions difficiles, hein, entrer dans le difficile, dans ce qui est en crise, ce qui est complexe, le discernement est nécessaire pour les réalités complexes. Il faut nous souvenir qu'il y a d'abord la volonté signifiée de Dieu. Le terme dans la bouche de François de Sales, c'est un terme juridique, hein, la signification d'huissier. Quand on vous signifie quelque chose, c'est qu'un huissier vient vous apporter une signification. Il vient vous dire ce qu'il faut faire, ce qui va vous arriver. Qu'est-ce que dit François de Sales ? François de Sales nous dit qu'il y a quatre sources qui nous indiquent la volonté de Dieu. D'abord, bien évidemment, la parole de Dieu. Dois-je tuer mon voisin ? Tu ne tueras point. Il n'y a pas de discernement à faire. Même si on peut développer sur la guerre juste, ensuite, ça c'est autre chose. Deuxième source de la volonté de Dieu, les commandements de l'Église. Nous appartenons à une communauté qui nous éclaire. Et aujourd'hui, comme nous sommes très individualistes, même si nous sommes prêtres, il faut être très attentif sur ce point-là. Il y a un vrai combat aujourd'hui avec les magistères parallèles, les magistères internet, les magistères de réseau, les magistères de petits groupes, les magistères de ceci, les magistères de cela. Vérifions où nous en sommes de notre obéissance catholique, notre obsequium religiosum, notre attachement au Seigneur et à son Église. Pas toujours facile. On râle tous par moments. Moi aussi, vous n'en faites pas. Ça peut vous rassurer. Où est-ce que nous en sommes ? Comment nous le vivons ? Comment nous l'intégrons ? Comment nous le dépassons ? Comment nous nous fortifions dans cette obéissance ecclésiale ? Troisième source de la volonté signifiée, c'est le devoir d'État, bien évidemment. Dois-je passer une heure sur TikTok ? Peut-être pas dans votre devoir d'État, à moins que vous ayez vraiment une mission particulière. Alors, il faut que je fréquente votre évêque pour le voir, ou votre supérieur. Voilà. Il y a des gens qui sont chargés de s'occuper d'Internet. Voilà. Mais quand même. Et puis, quatrièmement, et là, François de Sales, je trouve, est très audacieux, il dit la quatrième source de la volonté signifiée, ce sont les inspirations. On peut avoir des inspirations. Par exemple, on est en train de vivre une retraite et soudainement, on a une inspiration. Quelque chose qui vient nous toucher dans la liturgie, dans la prédication, dans l'attitude d'un frère, pourquoi pas, on est touché par... Pensez à Edith Stein, qui s'est converti en lisant Thérèse d'Avila toute une nuit, mais qui a aussi été complètement bouleversée un jour dans une cathédrale d'Allemagne, où elle est rentrée, elle a vu une simple femme arriver et se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement. Ça va être un des premiers éléments de sa conversion, très forte. Mais François de Sales nous dit, attention, toute inspiration ne vient pas de Dieu, vous en doutez bien. Donc il nous dit, attention, une inspiration... D'abord, elle doit être vérifiée avec un accompagnateur, bien évidemment, mais il dit qu'on peut lui donner un certain crédit si elle est conforme à la foi. Si elle est conforme à la foi. Si vous êtes inspiré de développer une dévotion à une quatrième personne de la Trinité, ou de la quadrinité, posez-vous des questions. Une véritable inspiration encourage à persévérer dans sa vocation. C'est très important. Et surtout, et là vous l'imaginez bien, elle vous laisse en paix. Pas une paix superficielle et provisoire. Vous savez, on est tous en paix après une bonne choucroute et une glace à midi. Tout le monde est en paix. Non, la vraie paix, c'est-à-dire celle qui résiste même aux contrariétés. Tant que tout le monde est d'accord avec nous, on est en paix. Les problèmes commencent avec les contrariétés. Et puis dernière chose, donc, si la volonté de Dieu est cette volonté signifiée, nous avons des points de repère qui nous sont donnés pour chercher la volonté de Dieu. Il y a aussi la volonté de bon plaisir. évidemment, qui est aussi une expression qui fleure bon son époque, qui signifie la manière dont Dieu parle particulièrement à travers les événements, les imprévus, les rencontres fortuites. Saint Alphonse de Liguori, que j'aime bien fréquenter parce que mon curé était rédemptoriste et qu'en Alsace il y avait beaucoup de rédemptoristes, il y en a encore quelques-uns. Mon curé me faisait lire Saint Alphonse de Liguori. Alphonse de Liguori dit: la volonté de bon plaisir, ça commence avec la météo. Être toujours heureux de ce que Dieu nous donne. La pluie parce que ça lave les rues, ça irrigue les champs, voilà. Le soleil parce que ça aide aux récoltes. Voilà. La volonté de bon plaisir qui passe par les événements et qui nous invite à la fidélité et à l'abandon. On y reviendra sur l'abandon. Peut-être qu'allant à Lyon, la route sur laquelle il allait mourir, François de Sales s'était arrêté pour rencontrer Sainte Jeanne de Chantal et échanger avec elle, et qui lui avait confié la chose suivante, que pour lui, peu à peu, la vie spirituelle se réduisait à cette simple formule que vous avez certainement déjà entendue 10 fois, 100 fois, ne rien désirer, ne rien refuser. Ne rien désirer, ne rien refuser. Ce qui ne veut pas dire ne pas avoir de désir, mais ne rien désirer d'autre que Dieu, et ce que Dieu veut. Et ne rien refuser. François de Sales qui disait: vous pouvez être saint selon votre volonté, mais vous ne le serez jamais autant que Dieu le veut si vous accueillez sa volonté. Je vais m'arrêter là, chers frères, prêtres. Il y a un certain nombre de points que vous pouvez bien évidemment reprendre. Je ne vais pas les reprendre les uns derrière les autres, mais vous voyez bien la réflexion que je vous ai proposée dans ce texte. Et puis pour demain matin, ce que je vous propose, c'est de traverser le chapitre 2 et de nous retrouver de nuit au chapitre 3 avec Nicodème, du verset 1 au verset 11, 3, 1, 11.
Sans vous détourner de la retraite, je rappelle donc que le Saint-Sacrement va être exposé donc dans la basilique du Rosaire pendant 1 heure, là, jusqu'au vêpres à 19h. Et nous serons en aube ou surplis dans le chœur pour chanter les vêpres de la basilique du Rosaire et le dîner à 20h. Et je rappelle, dernière chose, pour les commandes et pique-niques, n'hésitez pas à vous inscrire donc sur le à la réception. Voilà, et puis c'est pour la modique somme de 10 euros. Merci.